Je travaillais dans une société de services informatiques sur un support technique à distance. Donc, je dépannais des clients en prenant la main sur leur poste. Je corrigeais certains incidents. Donc, vous imaginez que c'est un travail très stressant, surtout quand il y a des plantages, des bugs beaucoup plus profonds.
Comment ça va le travail? Épisode 1, la santé mentale à l'épreuve du travail.
Le stress s'est installé. Déjà, c'était un travail stressant. Mais quand une accumulation de mails, de plantages au quotidien s'est installée et de plus en plus, l'urgence qui était quotidienne, les clients qui étaient mécontents, donc qui râlaient évidemment, mais surtout après la direction. Mais nous, on était, enfin moi, j'étais donc en première ligne et ça s'est fait doucement. Et là, pendant trois, je dirais, ça a commencé 3 ans, 4 ans avant mon burn-out, et j'ai tenu, et je me répétais à chaque fois en me disant, tu vas tenir, il te reste encore 4 ans avant la retraite, sauf qu'à force de tenir, ben, j'ai fini par tomber.
Les mois qui ont suivi, Anne-Marie ne pouvait plus conduire ni descendre les escaliers. Après des années de guérison, elle va mieux, mais n'est plus jamais retournée au travail. Son histoire trouvera des échos dans celle d'autres travailleurs et travailleuses. Les chiffres de l'assurance maladie le montrent, la santé mentale au travail se dégrade. Rien qu'en 2023, le nombre des maladies psychiques reconnues d'origine professionnelle a bondi de 25% et une nouvelle fois de 9% en 2024. Malgré cela, à celles et ceux qui flanchent, on reproche souvent d'être trop fragiles, incapables de surmonter la pression, quand on n'accuse pas leur vie familiale ou personnelle d'être à l'origine de leurs maux. S'en tenir à des causes individuelles, c'est pourtant ignorer toutes les études scientifiques qui montrent que les organisations de travail génèrent des risques, appelés risques psychosociaux, susceptibles de déclencher des pathologies psychiques comme le burn-out. Alors, comment changer de regard sur la santé mentale au travail et de là trouver des voies de guérison collective? Pour y voir plus clair, le magazine Aligne Santé et Travail et la chaîne de podcast Zéro Virgule ont tendu le micro à des spécialistes de la santé au travail. Thomas Périlleux, vous êtes sociologue mais aussi psychologue dans une clinique de travail en Belgique. Tous les jours, des gens vous consultent pour des maux en lien avec leur travail. De quoi souffrent-ils?
Dans 8 ou 9 cas sur 10, les travailleurs qui nous consultent arrivent avec un diagnostic de burn-out posé par leur médecin traitant la plupart des cas. La question du travail a vraiment envahi leur espace psychique, y compris dans les cauchemars, y compris des échanges qu'ils peuvent avoir avec les proches. C'est totalement envahissant. Je dirais que peut-être que la pensée était comme gelée dans l'hyperactivisme et dans l'affairement avant un arrêt de travail. Alors quand survient un épisode critique, quelque chose revient en fait dans la pensée, mais sous une forme envahissante. Et ça aboutit pour nous très souvent aussi à une radicalisation des questions qu'ils peuvent poser sur leur existence.
Si ces travailleurs évoquent les mêmes souffrances, alors n'essaierait-ce pas plutôt le travail ? Qui est malade?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que le travail est malade. En tout cas, il semble très malmené. Je pense que les souffrances dont nous sommes témoins en consultation indiquent à la fois des transformations dans l'organisation du travail qui sont assez nocives et des modifications du rapport au travail chez les personnes. Du côté de l'organisation du travail, depuis au moins 30 ans, il y a une intensification continue qui aujourd'hui probablement se tasse un peu, mais qui empêche chacun de prendre les temps de recul nécessaires pour penser à son activité. Il y a des méthodes gestionnaires qui accentuent la quantification, la protocolisation. Je dirais aussi que ce qui apparaît de façon très forte, c'est l'accroissement d'un contrôle sur la production, qui est un contrôle impersonnel, notamment par les moyens de l'informatique. Ça, ce sont des transformations relativement nocives et difficiles à encaisser pour un travailleur qui est attaché à son métier.
Vouloir bien faire son travail peut donc être un facteur de souffrance?
Je pense que les travailleurs ont des attentes de sens qui sont très fortes et qui sont de moins en moins rencontrées en raison de ces transformations d'organisation. Il y a aussi une manière de parfois se faire piéger par un idéal de performance ou un idéal même parfois simplement de qualité du travail, mais qui devient tyrannique et par rapport auxquels on ne trouve plus des marges de manœuvre ou des manières de ménager un écart. Donc, pour dire de ce point de vue que peut-être que le travail est en mauvaise posture, peut-être qu'il est malade, ça fait discussion parmi les équipes de cliniciens. On a parfois opposé une clinique du travail à une clinique du travailleur. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux ensemble, comme il faut tenir ensemble les transformations de l'organisation avec les changements plus subjectifs de ce rapport à l'activité et de ce qu'on peut y mettre subjectivement comme travailleur dans une attente parfois de reconnaissance excessive ou une attente de performance au-delà de ses propres limites.
S'il y a bien un chercheur qui a étudié ces transformations récentes des organisations de travail, c'est l'ergonome et statisticien Serge Volkoff. Au départ, comment ces nouvelles manières de travailler étaient-elles perçues ?
Les organisations actuelles du travail étaient annoncées comme prometteuses, en fait, du point de vue du bien-être au travail, à savoir un primat à la réactivité, à la capacité à s'adapter à des situations changeantes, une responsabilité croissante de chacun. Et en réalité, ces promesses n'ont pas été vraiment tenues ou ont été contrariées par un mouvement simultané d'intensification du travail et d'accroissement de contraintes de rythme en tout genre.
Dans « Le travail pressé », un livre que vous avez coécrit avec Corinne Godard et publié en 2023, vous décrivez le modèle de la hâte, une manière de travailler en nécessitant de se dépêcher. Comment cela se manifeste concrètement dans l'activité des travailleurs et des travailleuses ?
Ça se joue dans le travail immédiat, la répétition des urgences, tout à la fois tenir compte de la longueur d'une file d'attente, des particularités du client ou de l'usager qu'on a devant soi. Je prends l'exemple là des professions de service au public, mais aussi des contraintes de travail administratif, par exemple des nombres de documents à remplir ou de prestations à fournir dans une certaine durée. Alors, à une échelle temporelle un peu plus haut, il y a des histoires d'heures de travail, avec de plus en plus d'horaires qui débordent et de personnes qui travaillent avant l'heure, après l'heure, dans les transports, chez soi parfois, sur les temps de repos, sur les temps de congé, etc. Et puis, un troisième niveau, une échelle de temps plus longue, une accentuation de la mobilité, une accentuation des rythmes de changement de technique, d'organisation, etc., mais qui force à une espèce de situation d'apprentissage permanente qui pourrait avoir son intérêt, mais qui souvent peut s'avérer aussi fatigante. Et donc, au bout de tout ça, il peut y avoir en effet vraiment des formes de mal-être.
Et en plus, ce mal-être isole les travailleurs. Alors, existe-t-il au travail des manières de traiter collectivement la santé mentale ?
On a vraiment besoin de passer d'une lecture individuelle à une lecture collective de la santé mentale au travail, alors, sans du tout dénier l'intérêt des prises en charge individuelles qui peuvent parfois être très précieuses, mais qui laissent le problème des méfaits de l'organisation du travail ouvert. Alors, pour essayer d'avoir cette approche collective, il y a déjà quand même une ressource précieuse qui est de la rendre visible. Mettre en visibilité les mal-être quand mal-être il y a peut relever d'outils statistiques, d'enquêtes de terrain bien faites, d'avoir des intermédiaires qui soient en situation de recueillir cela, que ce soit des représentants du personnel ou que ce soit par exemple les équipes médicales en santé au travail, certains cadres aussi.
Et en demandant aux travailleurs non seulement ce qu'ils ressentent, mais aussi ce qu'ils sont déjà en train de faire pour tenir au travail.
En toutes circonstances, il y a quand même des formes de résistance et de défense du travail tel qu'il devrait s'effectuer. Partir de ces stratégies-là, c'est extrêmement précieux pour avoir une approche collective, c'est-à-dire parfois il faut et il suffit d'aller dans le sens de ce que les personnes essayent elles-mêmes de faire pour élargir leur propre marge de manœuvre.
Mais qui, au juste, peut les aider à défendre ce travail qu'ils aimeraient faire ? Dans les entreprises et les administrations, c'est le rôle des représentants du personnel qui doivent agir en prévention des risques psychosociaux. Stéphanie Galliose, vous réalisez des expertises santé, sécurité et conditions de travail pour des CSE. Quel cadre réglementaire permet aux représentants du personnel de consulter les salariés sur le travail réel et de faire remonter d'éventuels dysfonctionnements ?
Le code du travail, hein, la loi leur permet beaucoup de choses, toutes les possibilités d'inspection, d'enquête. Et même si tout va bien, les représentants du personnel n'ont pas besoin de l'autorisation en fait de leur employeur pour aller à la rencontre des salariés sur le travail.
Héloïse Galliot, vous êtes ergonome et réalisez vous aussi des expertises pour des CSE. À quelle occasion les représentants du personnel devraient être consultés par les directions d'entreprise pour prévenir les risques psychosociaux ?
Quand on est dans la réflexion autour de la définition d'une nouvelle organisation, comment on fait en sorte que la dimension travail réel, travail concret, elle soit intégrée dans la définition de la nouvelle organisation, qu'on en tienne compte et qu'on inscrive les représentants du personnel dans cette démarche et dans cette réflexion. Et ça, malheureusement, c'est très rarement fait, même sur des projets qui pourraient sembler assez évidents à organiser de cette façon-là. Si on prend les déménagements, par exemple, les représentants du personnel sont consultés, mais une fois que tout est terminé, alors on leur a fait choisir la couleur des murs, super, mais tout a été défini avant. Donc voilà, donc il y a aussi cet enjeu-là de forcer, de pousser à ce qu'on les inscrive dans une démarche de réflexion autour de la définition des organisations le plus en amont possible. Mais ça veut dire aussi que les directions d'entreprise, elles doivent être sensibles à cette dimension-là.
Vous venez d'écouter le premier épisode de « Comment ça va le travail ?». Vous y avez appris que certaines organisations de travail génèrent des risques pour la santé mentale, mais aussi que les travailleurs ont à leur disposition des ressources, y compris collectives, pour y faire face. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Santé et Travail, où vous pourrez lire le dossier « La santé mentale à l'épreuve du travail », paru au mois de janvier. Vous y trouverez des informations précieuses sur les manières d'accompagner la reprise du travail après un burn-out, ou encore lire une interview du sociologue et historien du syndicalisme, Rémi Ponge. Enfin, je vous invite à lire le reste de nos enquêtes, interviews et analyses sur santé-et-travail.fr et à écouter le podcast 0, Penser le travail sur Audioblog Arte Radio. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.